Moi, j'ai commencé la cuisine en me disant qu'à 30 ans, j'aurai mon restaurant.
En fait, il faut partager des valeurs et tout commence là-bas. Parce que les valeurs dans la cuisine, c'est tellement important. Nos manières de traiter les gens, les produits, soi-même. Et si on partage ça, on peut créer des choses incroyables. Mais s'il y a une tension dans ça, tu ne vas pas aller très loin.
Finalement, respecter l'humain, respecter les gens avec lesquels on travaille, c'est aussi, en deuxième temps sur la chaîne, respecter les producteurs avec lesquels on travaille.
On a souvent des retours des gens de la salle qui disent qu'ils ont eu des propos sexistes ou des attouchements par leur chef de rang.
Il y a aussi comment se comportent les clients. On a quand même régulièrement des gens qui ne se comportent pas bien, qui ne parlent pas forcément correctement, etc. Il y a aussi ça, je trouve que le restaurant de demain, ça passe aussi par la clientèle, quoi.
On se dit que dans nos métiers, on a une responsabilité, parfois, d'avoir encensé des personnes qui n'ont pas des attitudes extrêmement positives envers leur brigade.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Chers auditeurs et auditrices, en ce début d'année, place à l'espoir, au renouveau, place à l'imaginaire d'un futur désirable. Commençons 2023 par imaginer ce à quoi ressemble le resto de demain. Resto de demain, l'expression est volontairement polysémique. Par resto de demain, il faut entendre le resto tel qu'il se dessine déjà, avec un secteur professionnel en constante mue ces dernières années, mais aussi le resto idéalisé, le resto rêvé, celui qui n'existe pas encore, mais représente déjà un horizon ambitieux pour les gens du métier, comme celles et ceux qui viennent s'attabler. Se projeter dans le resto de demain nécessite forcément de commencer par ce qui ne va pas dans le resto d'aujourd'hui. Stress, horaires décalés, précarité, violence en cuisine. Dans le milieu de la restauration, les conditions de travail sont connues pour être difficiles. Au lendemain de la pandémie, à l'heure où les restaurants réouvraient, un certain nombre de travailleurs et travailleuses du secteur ont rendu le tablier pour de bon. Faire à manger pour les autres en courbant les chines, ne pas compter ses heures, avoir le dos en compote et gagner des cacahuètes, la profession semble avoir largement éprouvé ses limites. Ancienne voie de garage devenue métier passion cette dernière décennie, la restauration a tant malmené ses forces vives qu'elle se retrouve désormais au pied du mur. La pénurie de main-d'œuvre est criante. Alors, que faire pour séduire à nouveau et susciter des vocations? C'est le défi qui attend aujourd'hui tout un secteur sommé de faire son examen de conscience. Avec, en filigrane donc, cette question. À quoi doit ressembler le resto de demain? Il y a une phrase que l'on entend souvent lorsqu'on évoque les métiers de service. Le client est roi. Impossible de savoir exactement qui est à l'origine de cette locution, mais il semblerait que cet état d'esprit entrepreneurial soit né au début du XXe siècle, à une époque où l'une des stratégies marketing les plus en vogue consistait à considérer la satisfaction du client comme un point central de l'évolution d'une entreprise. Pour autant, le client est-il réellement toujours roi? Poussé à l'extrême, cet adage n'est-il pas un brin exagéré? Dans le secteur de la restauration, on ne connaît que trop bien cette clientèle qui tire un peu trop sur la corde. Ce sont ces personnes qui ronchonnent à voix haute devant le menu, demandent à changer complètement la composition des assiettes, se plaignent quand le plat n'arrive pas dans les 5 minutes, traînent très longuement à table alors que le personnel encore en service ne demande qu'à fermer les stores et rentrer à la maison. Disons-le, ces clients qui se prennent pour des rois ont une lecture très littérale du mot « service » dans l'expression « métier de service ». Or, pour Marion Gutelet, chef au Café Mirabel à Paris, il est important de rappeler que le respect est une notion clé dans le monde professionnel. En restauration, cette notion intervient à différents niveaux de la chaîne de production. Il y a le respect du vivant, autrement dit le respect des produits utilisés, comme celui des équipes, mais aussi le respect des clients envers le personnel du restaurant.
Autant que respecter en fait ses collaborateurs, c'est aussi ça, respecter le client. Et me suis rendu compte que... Enfin, tu vois, en y réfléchissant à toutes ces problématiques et tout, je me suis rendu compte que dans les établissements, même les établissements très étoilés où je travaillais, quand on ne respectait pas l'humain, mais souvent le produit, il n'était pas respecté non plus, en fait, parallèlement. Alors qu'on peut se dire c'est deux choses différentes, mais en fait, c'est hyper lié. Et je me rappelle que dans ce restaurant-là, par exemple, on faisait beaucoup de gaspillage, on jetait énormément de choses, on n'avait pas forcément des produits, tu vois, aussi dingues qu'un deux étoiles ou trois étoiles aurait mérité. Et en fait, je me suis rendu compte que tout est lié quand on fait attention, quand on respecte en fait les choses, parce que finalement respecter l'humain, respecter les gens avec lesquels on travaille, c'est aussi en deuxième temps sur la chaîne respecter les producteurs avec lesquels on travaille, tu vois. Et jeter la moitié de la cam, c'est pas respecter le travail du producteur. Et tout ça, ça fait partie, je pense, du restaurant de demain. C'est évidemment comment on travaille en équipe et tout ça, mais c'est un vaste sujet parce que y a aussi comment se comportent les clients. Tu vois, parce que moi, je sais que nous, des fois, on passe des super journées et on se prend des réflexions. Et encore, enfin, franchement, je trouve qu'on a vachement de chance parce qu'on a une très belle clientèle. Mais on a quand même régulièrement, tu vois, des gens qui se comportent pas bien, qui nous parlent pas forcément correctement, etc. Il y a aussi ça, je trouve que le restaurant de demain, ça passe aussi par la clientèle, quoi, qui est un peu plus, indulgente, peut-être, qui arrête de vouloir tout le temps, toute l'année, à n'importe quel prix, tu vois, qui arrête de vouloir des fraises toute l'année, qui arrête de vouloir d'être servi en 3 minutes par quelqu'un qui est très souriant alors qu'on est en train de pas le respecter. C'est un sujet qui me touche. Et du coup, j'ai écouté aussi des podcasts sur des retours de personnes qui avaient quitté le milieu de l'hôtellerie-restauration après le Covid. Et il y en a beaucoup qui disaient qu'en fait, ils supportaient plus la clientèle.
Pour Marion Gueutelet, la fin des confinements a certes donné envie à beaucoup de personnes de retourner au restaurant, mais cet empressement et cet enthousiasme n'ont pas nécessairement rimé avec joie et bienveillance. Selon la chef, cette privation momentanée a au contraire généré frustration, impatience et attentes mirobolantes chez certains clients. La chef d'origine alsacienne estime qu'il y a notamment une urgence à sensibiliser sur ce que coûte la production d'une assiette en cuisine.
On a tous cru, après les deux confinements, que les gens allaient se dire « c'est tellement génial le restaurant, que voilà, ben, on va juste kiffer le fait d'aller au restaurant ». Et en fait, on s'est rendu compte que les gens étaient devenus encore plus exigeants qu'avant, encore plus impatients. Des fois, même, c'est pas des réflexions qui sont pour nous, mais ce week-end, il y avait... on était archi-complet. Il y a une dame assez âgée qui est venue avec sa petite fille, qui nous a demandé de changer 4 fois ces trucs et tout machin. Enfin bref, on était au petit soin. Et quand elle est sortie, elle a pas vu que j'étais dehors et elle a dit à sa petite fille, 10 euros la pâtisserie sur place, c'est ultra cher et tout. Et après, elle m'a vu et elle m'a dit, oh merci, vous étiez vraiment super agréable et patiente avec moi et tout ça. Et du coup, j'en ai profité pour lui dire, vous avez 10 euros la pâtisserie sur place. Elle est accompagnée d'une glace maison, elle est accompagnée d'un dressage, de fruits. Le travail qu'il y a sur un gâteau à monter, enfin, il est énorme. Derrière, on a le chauffage, on a le personnel, en fait, à payer qui s'occupe de vous, qui va vous mettre une carafe d'eau. C'est tout des choses comme ça qui sont aussi... On est un peu fatigué de devoir se justifier parce que moi, j'estime que, tu vois, 10 euros un dessert à l'assiette, donc je sais ce qui rentre dans nos poches. Tu vois, et en fait, moi, ça fait 5 ans et demi que j'ai le resto, ça fait 5 ans et demi que je travaille pour la gloire, alors que j'ai un restaurant qui fonctionne bien, avec du monde, tout le temps, mais avec des charges qui évoluent, les prix des matières premières qui ont explosé, et quand on veut utiliser des bonnes matières premières, ben ça coûte super cher, que de l'énergie, tout ça. Les gens qui sont pas du métier vont nous dire faut mieux rémunérer les gens de la restauration. Ben oui. Moi, je suis la première. J'adorerais leur donner 3000 nets. Mais d'un autre côté, 10 euros le dessert à l'assiette, c'est trop cher. Mais je fais comment, en fait? C'est des problématiques. C'est que les gens ont pas envie de payer plus cher, mais ils ont envie d'être bien servis. Alors, bien sûr que le salaire fait pas tout et que il faut mettre des bonnes conditions de travail. Et ça, on peut le faire. Il n'y a pas d'histoire financière là-dedans. Mais je veux dire, on fait quand même un métier qui est physique et qui est assez intense. J'aimerais pouvoir donner des salaires beaucoup plus décent, ou comme aux États-Unis, ils ont le service charge, enfin les tips et tout ça, ça c'est pareil, les pourboires ça n'existe plus, les gens laissent plus de pourboires.
C'est un point sensible que soulève ici Marion Gueutelet, car sur le fond, si tout le monde est d'accord avec l'idée que les travailleurs et travailleuses du secteur de la restauration devraient être mieux rémunérés, qui accepterait réellement l'idée de payer davantage pour aller manger au restaurant ? On l'a vu en cette période d'inflation, beaucoup de restaurants ont dû ajouter quelques euros à leur prix habituel. Certains ont même fait preuve de transparence en communiquant sur le prix de leur denrée de base et en expliquant qu'ils n'ont eu d'autre choix que de revoir la note. Mais en France, au sein des différentes catégories socioprofessionnelles, la rémunération des uns et des autres suit-elle réellement le cours de l'inflation ? Autrement dit, sommes-nous toutes et tous capables de continuer à aller au restaurant ? Quel est donc ce juste prix qui participerait à une meilleure santé économique de nos restaurants préférés, tout en étant un effort financier acceptable pour le plus grand nombre ? Comment s'assurer que la hausse des prix ne creuse pas davantage une fracture sociale déjà bien entamée chez les consommateurs et consommatrices ? Et quel rôle l'État peut-il peut-être avoir sur cette question ? Réservons cette réflexion au prochain épisode de cette série. En attendant, Marion Gutelet exhorte la clientèle à utiliser autant que possible son esprit critique en choisissant, lorsque cela relève d'une information publique, de soutenir des établissements respectueux de leurs équipes.
Donc le restaurant de demain, ça passe par nous, ce qu'on met en place, ça passe aussi par une prise de conscience des gens, une prise de conscience de quand on va dans un restaurant gastronomique et qu'on va dépenser très cher pour une occasion, pour les 50 ans de mariage, pour machin, ben on choisit son restaurant gastronomique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des restaurants 3 étoiles qui traitent super bien leurs équipes, qui travaillent en étroite collaboration avec leurs producteurs. Et il y a des restaurants 3 étoiles qui donnent encore des coups à leurs cuisiniers et qui sont mal payés et insultés. Donc, en fait, il y a une question aussi de consommation éthique de la part des clients.
Alors, bien sûr, il n'est pas toujours possible de connaître les coulisses des restaurants, admet Marion.
Des fois, déjà, on ne sait pas si ça se passe bien ou pas, etc. Donc, mais je dis juste que il y a, dans le secteur, en interne, des problèmes, énormément de problèmes qu'il faut régler. Et la base de tous ces problèmes, c'est le respect du personnel et de nos collaborateurs et tout. Il y a aussi, on peut pas mettre 100% de la faute des problèmes du secteur sur les acteurs du secteur. Je pense que, ouais, la façon dont se comporte la clientèle, ça joue aussi.
Reste que certaines choses contribuant au bien-être des équipes des restaurants sont tout à fait à la portée de la clientèle. C'est par exemple le fait, collectivement, de revaloriser le travail du service en salle, en admettant qu'un service bien fait est aussi important qu'une assiette bien travaillée. Camille Guillot, qui est à la tête du restaurant Candide à Paris, qu'elle a ouvert avec son compagnon Alessandro Candido, regrette le manque de reconnaissance sociale des métiers de l'hospitalité.
Tous ces sujets de rémunération, ça nous amène aussi sur le sujet de la reconnaissance sociale. Théoriquement, qui est un des piliers du bien-être au travail, c'est la reconnaissance qu'on a autour de soi en société pour le boulot qu'on fait. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, du fait qu'on ne reconnaisse pas trop les métiers de l'hospitalité, du service, que c'est un peu sous-estimé, quoi. Quelqu'un qui travaille en salle... Souvent, je vais pas rentrer dans les clichés, on les connaît tous, mais on nous demande toujours, si c'est transitoire, moi, on me demande toujours, oui, mais toi, tu vas pas faire de la salle tout le temps, Alors oui, mais j'aime bien aussi faire de la salle, et puis, je trouve que vraiment, il y a une vraie valeur ajoutée à avoir un vrai service en salle, et puis, personnellement, je prends plaisir à le faire, ça m'apporte des choses, je m'enrichis au contact des gens, Mais donc il y a vraiment ce sujet aussi qui arrive et qui est global, c'est l'estime qu'on a des personnes qui travaillent dans les métiers de service, quoi. Donc ça pour nous c'est aussi très important.
Davantage respecter le personnel en salle, c'est aussi faire preuve de bon sens et d'empathie pour lui, en ne traînant pas trop longtemps après un dîner. Et cette situation vous est sans doute déjà arrivée. Il est minuit passé et vous avez déjà bien bu et bien mangé. Le moment est festif et vous n'avez pas envie de quitter l'agréable compagnie de vos proches. Oui, sauf que votre bonus de bon temps se fait sûrement ici au détriment de la santé physique et mentale des travailleurs et travailleuses du restaurant. À ce sujet, Marion Gutelet a encore en travers de la gorge un service en particulier. Une cliente qui s'est inquiétée de son état de fatigue sans forcément plus tard avoir l'idée de partir à la fermeture du restaurant.
Et elle me dit, et vous, ça va, vous avez l'air un peu fatiguée ce soir. Et tu vois, d'habitude, je ne sais rien. Et là, je sais pas, comme je la connais un peu et tout, je lui dis, oui, c'est vrai que c'est pas facile en ce moment parce qu'on cherche quelqu'un et parce que du coup, ça fait un moment que c'est moi qui fais toutes les fermetures le soir et je suis là le lendemain matin. Et bref, je lui dis que je suis un peu fatiguée parce qu'effectivement, comme on est en salle, j'ai des grosses journées. Et ils ont traîné C'était les derniers dans le restaurant, mais pendant une heure. Ils ont traîné jusqu'à minuit et demi, alors qu'ils avaient fini, je sais pas, à 23h, ils avaient l'argent.
C'est terrible, alors même que tu avais eu cette discussion juste avant, c'est très frustrant.
C'est à quel point te dire que les... Je sais pas quelle vision ont les gens de la restauration, j'aimerais bien comprendre, je pense que tout le monde a des visions un peu différentes. Mais en tout cas, ils ont une vision qu'on est à leur service, ce qui est vrai, mais jusqu'à un certain point, tu vois.
Sur ce point, plusieurs restaurateurs et restauratrices m'ont confié désormais ne plus hésiter à inviter les dernières tables à quitter le restaurant passé une certaine heure. Cette manière de faire est une nouveauté lorsqu'on sait que longtemps, la pratique en vigueur consistait à ne jamais mettre dehors le client et donc à attendre patiemment que celui-ci parte de lui-même. Quitter ou ne pas quitter un restaurant est donc en soi une problématique. Mais venir ou ne pas venir au resto aussi, autrement dit honorer sa réservation ou pas. Et pour en discuter, j'ai tendu le micro à Elisabeth de Bourse.
Je m'appelle Elisabeth de Bourse et je suis la rédactrice en chef magazine du Fooding.
Elisabeth de Bourse explique ce qu'est le no-show, N-O plus loin, S-H-O-W.
Le no-show, c'est quand vous réservez dans un restaurant et que le moment de la réservation venue, donc le moment où vous devez vous rendre au restaurant, et bien en fait, vous n'y allez pas. Vous n'y allez tout simplement pas et vous n'y allez pas sans annuler et sans prévenir.
Le no-show, le fait de ne pas penser à annuler une réservation ou de le faire à 19h55 pour une résa à 20h, juste histoire de se donner bonne conscience, le no-show donc a des répercussions et celles-ci ne sont pas qu'économiques, explique Elisabeth.
Ce phénomène, il est problématique déjà parce qu'il est de plus en plus fréquent. Les restaurateurs nous disent que ça n'arrête pas d'arriver, n'arrête pas de se retrouver un soir, un midi avec 5, 10, 15 personnes qui annulent. Les répercussions, elles sont d'abord financières, ça c'est assez évident, donc il y a un manque à gagner. On se dit peut-être en se consolant qu'on peut accueillir d'autres personnes à la place de celles qui ne sont pas venues, mais en fait, c'est pas toujours possible de remplir un restaurant avec ce qu'on appelle du walk-in, donc simplement quand les gens entre dans un restaurant sans avoir réservé, parce qu'on n'est pas toujours dans une rue très fréquentée, parce que parfois il est nécessaire de faire un petit peu de transport, de trajet pour y aller. Donc, c'est pas toujours facile de remplacer ces personnes absentes. Il y a un manque à gagner. Il y a aussi une perte de produits. C'est du gaspillage. Quand un restaurateur, une restauratrice prépare son service, les chefs également évidemment, c'est de la nourriture qu'ils ont déjà commandée et qu'ils devront payer quoi qu'il arrive. Dans certains cas, cette nourriture ne peut pas être utilisée le lendemain, le surlendemain, le sursurlendemain. Donc c'est gâché. Et puis ensuite, il arrive aussi qu'on engage du personnel en extra en vue d'une grosse soirée. Et puis finalement, on se fait planter par la moitié de la salle, mais on doit quand même toujours payer le personnel qu'on a engagé. Donc, les répercussions du no-show, elles sont financières. Elles sont également importantes en termes d'organisation parce que un service, voilà, ça se prend pas par-dessus la jambe. Je disais, il y a déjà une mise en place au niveau de la cuisine, mais il y a aussi une mise en place à faire au niveau des vins, il y a des tables à dresser, un plan de salle à respecter ou à changer. Donc ça, c'est déjà pas simple. Et puis, il y a un truc qu'on dit trop rarement, je trouve, et c'est quelque chose quand on côtoie des restaurateurs, des restauratrices, qu'on peut voir, c'est que ça a des répercussions morales très importantes. En fait, quand vous vous faites planter, c'est comme quand vous vous faites ghoster pour un date. Vous vous demandez qu'est-ce qui va pas chez vous et pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu chez vous? Pourquoi est-ce qu'on n'a même pas pris la peine, la politesse de prévenir qu'on n'allait pas venir à ce rendez-vous? Et puis, la période actuelle est pleine de pression financière, économique et voilà, ça rajoute vraiment à la charge mentale et morale des restaurateurs, restauratrices et chefs d'avoir autant de no-show aujourd'hui.
La rédactrice en chef du Fooding explique que le no-show est un phénomène de grande ampleur.
Quand on a lancé avec Combini la carte blanche No More No Show, arrêtez de poser des lapins à vos restaurants, on a contacté tout un tas de restaurateurs et restauratrices pour leur demander de signer. Et en fait, on a reçu énormément d'emails, de messages, parfois de coups de téléphone, de réponses en fait qui disaient que pour eux, c'était un calvaire en ce moment et que depuis effectivement la fin des confinements, il semblait que le No Show était vraiment plus fréquent qu'avant. Là où à la base, on avait contacté 100 restaurateurs et restauratrices, en fait, cette carte, elle a été signée signés en quelques jours, semaines, par des centaines et des centaines de restaurateurs. Donc c'est vraiment, en mon sens, la preuve que c'est un phénomène qui est très problématique pour les gens du milieu de la restauration.
Alors, qui sont ces gens qui usent et abusent du no-show ? Des enfants gâtés des restaurants qui réservent plusieurs tablées pour le même soir afin de se laisser le choix, mais manquent ensuite d'organisation pour annuler à temps ?
On parle souvent de cette stratégie de réserver plusieurs restaurants à la fois. J'avoue que moi, j'ai un peu du mal à y croire. Ce que je pense effectivement, c'est que soit on se laisse dépasser par un apéro bien arrosé ou simplement une conversation qui fait qu'on a envie de rester à un endroit ou avec un certain groupe de personnes. Et puis, il y a effectivement peut-être un manque de considération pour les autres et pour leur travail. Quelque chose qui marque, c'est que le très fort rapprochement entre les mots service et servitude. Si les gens sont à notre service, ils peuvent bien attendre ou tant pis, ils feront autrement. Et en fait, c'est pas ça que signifient les métiers de service.
Cette discussion avec Elisabeth de Bourse a également été l'occasion de parler du pourboire.
En France ou en Belgique, qui est le pays d'où je viens et où j'habite toujours aujourd'hui, dans ces deux pays, en fait, on donne peu, voire pas du tout, de tips, donc de pourboire à la fin d'un repas. On parle de moins de 10%. Nous, on avait fait un petit sondage avec le Fooding et clairement, on oscillait entre 0 et 10%. On a parlé à des restaurateurs qui corroborent un petit peu ces chiffres. Et aussi, on donne des tips que quand on estime que le service a été vraiment très bon. Donc, on a été chouchoutés. Parfois, on s'est vu offrir un petit Dijon à la fin, comme ça arrive parfois encore dans certains restaurants. Pourquoi est-ce qu'on donne assez peu de tips, voire pas du tout ? C'est parce que, il me semble, qu'on estime que c'est pas un besoin. C'est pas un besoin parce que les personnes qui font le service en salle, sont rémunérées par un salaire et donc, en tant que client, on n'a pas à participer de manière aussi directe à leur rémunération, à l'inverse de ce qui peut se faire aux États-Unis.
Aux États-Unis, la pratique du pourboire est bien plus répandue qu'en France ou encore en Belgique. Elisabeth de Bourse explique.
Donc, on a travaillé sur la question avec le Fooding, de cette opposition culturelle sur le pourboire entre la France et les États-Unis. C'est dans un article qui a été écrit par Ella Martin-Gachot, qui est une franco-américaine qui vit aujourd'hui aux États-Unis et qui fait un métier de salle en partie. Aux États-Unis, le pourboire, les tips, font vraiment partie de la culture de la sortie au restaurant. Au-delà de la culture, c'est même presque une obligation morale. On donne en moyenne 20%. Les pourboires peuvent aller, je dirais, de 15 à 25, voire 30%. 10%, comme ce qu'on donnerait en France, aux États-Unis, c'est extrêmement mal vu. C'est assez insultant. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence ? C'est parce qu'aux États-Unis, les offres de métiers typés qui peuvent recevoir des pourboires ne doivent pas, dans beaucoup d'États américains, répondre au salaire minimum. Ça veut dire qu'en fait, on a des salaires qui peuvent descendre jusqu'à à peine plus de 2 dollars par heure. C'est quand même hallucinant. Et donc, on se fait de l'argent, quand on fait ces métiers, sur un pourcentage de la note. Un pourcentage à la note, ça veut dire que le client, il a intérêt à consommer, à rester, à passer un bon moment. Et donc, le service doit être irréprochable. Alors, je dis que c'est incroyable de mon point de vue de Belge qui côtoie la France. Mais en réalité, dans certains établissements, on peut gagner certains soirs 600, 700 dollars en tips. Ce qui fait en fait un salaire, entre guillemets, plutôt décent. Certains serveurs, barman, barmaid américains nous disaient dans cet article « Non mais moi, je reviendrai ou je ne viendrai plus jamais travailler en France. » Je mets des énormes guillemets, c'est de l'esclavage. Je mets des énormes guillemets et en même temps, je vais donner quand même un peu de contexte historique. En fait, le tip, à la base, c'est une importation européenne aux États-Unis qui était au début, à la naissance des États-Unis, jugée assez ringarde. Ce n'est que quand il a fallu rémunérer les anciens esclaves après la guerre civile que là, on a jugé aux États-Unis OK de les payer en tips. En fait, on ne voulait pas leur donner de salaire, simplement.
Alors voilà, honorer ses réservations, annuler en temps et en heure lorsqu'on ne peut finalement pas, penser à laisser un pourboire, interagir avec le personnel d'un restaurant avec courtoisie, ne pas attendre de voir le personnel ranger les tables et passer le balai pour avoir l'idée de quitter un bistrot, voilà autant de choses tout à fait à notre portée en tant que client et cliente d'un restaurant. Perso, j'ajoute également une attention. Prendre le temps de dire quand les choses m'ont plu. Autant dans l'assiette, en adressant mes compliments à la chef ou au chef, que dans le service, lorsque je l'ai trouvé agréable. Gardez-le en tête, car ce sont des petites choses qui peuvent réellement faire la différence dans une ambiance de travail. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour s'attaquer à un gros morceau. Ce sujet qui fâche et qui pourtant est une question centrale dans la structure du secteur de la restauration. Un enjeu que l'on ne pourra pas passer sous silence si l'on veut réformer solidement ce milieu professionnel et en faire un environnement plus sain et serein pour les restaurateurs comme pour leurs équipes, la thune. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Mathilde Jonin et Diane Le Sieur. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.